Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Guillaume Herner. Donc on va parler de l'Union européenne. Le titre qui pourrait être proposé, c'est au fond, est-ce qu'on assiste à un démembrement de l'Union européenne tel qu'il était voulu par Maastricht il y a à peu près donc 91, 92, 93, à peu près 25 ans. Et notre invité Bastien Nivet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignant à l'école de management Léonard de Vinci, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et vous avez publié récemment en 2015 un ouvrage en compagnie de Sylvie Matelli qui s'intitule « L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?» qui est une sorte de travail parallèle à notre sujet de ce matin. Alors on voit qu'il y a un certain nombre de fléaux de divers ordres qui se sont abattus sur l'Union européenne depuis près de 10 ans. Alors, donc on vient d'en parler, Marie Viennot, évidemment la crise économique survenue en tout cas en Europe en 2008. Il y a également l'installation donc d'un certain nombre de différends entre la France et l'Allemagne, très réels, la question grecque, la crise de la dette souveraine, l'essor tout à fait remarquable de l'extrême droite, des populismes, des régionalismes indépendantistes, il y a même la question de l'Ukraine qui en 2014 a divisé les Européens, un référendum consultatif aux Pays-Bas le 6 avril dernier donc a rejeté l'accord d'association entre Kiev et Bruxelles, entre Bruxelles et Kiev, et puis on retrouve alors là, grandeur nature, 25 ans après, au fond, la question allemande en Europe dans la construction communautaire, et l'Allemagne agit de plus en plus d'une façon autonome. Alors évidemment c'est une avalanche de mauvaises nouvelles.
Oui, et c'est un peu dans l'air du temps. Effectivement, ce qui frappe aujourd'hui quand on observe l'Union européenne, c'est qu'on a l'impression que où que se porte notre regard, on voit que des mauvaises nouvelles. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans un discours au Parlement européen au début de cette année, parlait de polycrise européenne, un mot qui avait déjà employé d'ailleurs, était employé par Jean Quatremer, le correspondant à Bruxelles de Libération. Et ce qui est vrai, ce qui frappe dans la période actuelle, c'est que cette Union européenne, qui avait toujours été perçue comme un processus irréversible, destiné à s'approfondir et à s'élargir en permanence, on n'avait jamais pensé sa possible réversibilité. La possibilité qu'il puisse y avoir un ou des retours en arrière, un État membre qui sort, une politique à laquelle on renonce, etc., était un impensé dans la construction européenne. Or, aujourd'hui, on a l'impression que où que se porte notre regard, c'est un peu le contraire qui se passe. La perspective du référendum britannique sur une éventuelle sortie de l'Union européenne laisse planer la possibilité d'une sortie d'un État membre de l'Union européenne. Il y a eu des débats aussi au cours des deux dernières années sur l'hypothèse d'un Grexit, une sortie de la Grèce, de la zone euro, de Schengen, voire de l'Union européenne.
Ce qui n'est pas permis par les traités, on ne peut pas partir de l'euro, mais on peut partir de l'Europe.
On peut partir de l'Union européenne.
C'est toujours quelque chose qui n'est pas rappelé, c'est à qui peut le plus ne peut pas le moins.
Ce serait intéressant de voir comment un État membre pourrait sortir de l'Union européenne, un État membre qui est aussi membre de la zone euro pourrait sortir de l'Union européenne sans sortir de la zone euro. Et aujourd'hui, finalement, si la tonalité est aussi catastrophiste, si les regards sont aussi inquiets sur l'Union européenne, c'est que ces difficultés-là sont restées des impensées dans les débats politiques européens. On n'a pas pris au sérieux les possibilités de retour en arrière de la construction européenne. D'où aujourd'hui un certain nombre de menaces qui apparaissent d'autant plus importantes, d'autant plus sérieuse.
En fait, c'est le principe fédéraliste qui avait un peu volé en éclats et explosé en vol. Et c'était l'expression d'ailleurs tout à fait inquiétante sur le plan, on va dire, méthodologique et intellectuel. Il n'y a pas de plan B. Ce qui était d'une certaine façon de fusiller le débat ab initio.
Alors, il y a une démarche effectivement qui peut-être est un peu à bout de souffle aujourd'hui dans la construction européenne et dans l'Union européenne. Une démarche qui consistait à considérer que, c'est un peu le grand pari de Delors et de Mitterrand dans les années 80, que finalement l'accomplissement du marché intérieur entraînerait un peu de fait, par un effet d'engrenage un peu automatique, la construction politique, économique, sociale et pourquoi pas fiscale de l'Union européenne. On voit aujourd'hui que ça n'a pas marché et qu'on ne peut pas attendre que les convergences, que la construction européenne se fasse toute seule.
Oui, de l'économie, il faudrait de la politique.
Il faut un élan politique, il faut une convergence d'intérêts, il faut des États membres et des opinions qui soutiennent les processus, sans quoi rien ne se passe. Et une partie des difficultés actuelles est liée à cette naïveté dans la méthode communautaire, d'avoir pensé que ces pans-là de la construction européenne, politique, sociale, économique, viendraient tout seuls, en quelque sorte. Malheureusement, les choses ne viennent pas tout seuls, il faut un effort politique, il faut une convergence objective d'intérêts entre les États membres, un soutien des opinions publiques, pour que l'Europe puisse avancer.
Alors il y a une chose évidente qu'on a souvent rappelée pour le déficit européen, c'est quand même 16 élargissements en 18 ans de temps, c'est-à-dire que trop d'élargissements a freiné ou tué l'approfondissement, pour employer le jargon communautaire élargissement-approfondissement.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on voit dans les États membres de l'Union européenne un peu historique, en France, aux Pays-Bas, pour prendre un exemple récent, que les opinions publiques semblent avoir un peu perdu, le sentiment d'avoir un peu perdu leur Europe. L'Europe qui, en France, par exemple, était, a longtemps été perçue comme une France en plus grande, dans laquelle on pouvait assez facilement déployer nos propres intérêts en espérant que le reste de la classe suive. Et on voit chez ces anciens États membres de l'Union européenne des petits doutes, des petits flottements, comme on a vu récemment avec le référendum aux Pays-Bas, justement, où les citoyens néerlandais ont rejeté de façon assez massive, hein, plus de 60%, la signature de l'accord d'association avec l'Ukraine. Et quelque part, c'est un peu le reflet d'une opinion qui ne se reconnaît plus dans l'Union européenne telle qu'elle est et telle qu'elle va.
C'est la remontée des populations, au fond. Et oui, des citoyens, comme on dit pompeusement.
Alors, ça aussi, c'est un bel exemple de difficulté qui, aujourd'hui, est présenté comme l'un des signaux de cette polycrise européenne, mais qui n'a rien de nouveau dans la préparation de la conférence intergouvernementale qui allait aboutir au traité de Maastricht. Dans les négociations au traité de Maastricht, rapprocher l'Europe des citoyens, c'était un des éléments, un des impératifs que Kohl et Mitterrand avaient fixé comme cahier des charges pour cette conférence intergouvernementale. C'était il y a 25 ans. Et depuis, il y a eu un certain nombre d'obstacles dans ces tentatives de rapprochement des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne. Et par ailleurs, le référendum néerlandais récent n'est pas la première fois, n'est pas le premier non à un référendum sur l'Union européenne, puisque les Néerlandais avaient déjà voté non contre le traité constitutionnel européen.
Trois jours après la France.
Quelques jours après les Français, dans une marge encore plus importante. Donc là, effectivement, il y a un défi qui est important aujourd'hui, et d'autant plus important qu'il y a une sorte d'injonction contradictoire entre le besoin d'une action coordonnée, concertée de l'Union européenne en tant que telle, et le fait que les opinions publiques ne suivent pas forcément, et que les États membres eux-mêmes, face à ces défis, peuvent avoir des intérêts, des points de vue, des cultures politiques différenciées.
Alors justement, il y a un retour à l'intergouvernemental à commencer, ce n'est pas une critique par l'Allemagne, par Berlin, une sorte de voix solitaire, elle agit de façon de plus en plus autonome. On l'a vu pendant la crise économique, je prends quatre exemples fameux, on l'a vu le retour donc évidemment à la pollution après la tragédie de Fukushima et l'abandon du nucléaire civil d'ici 2022, la question des migrants où elle impose des quotas obligatoires et elle n'y arrive pas d'ailleurs finalement en pratique. Et elle impose la question des migrants de cette façon-là à tous les collègues européens. Et puis les droits de l'homme, la Turquie, je veux dire, elle fait ce qui est presque un accord bilatéral entre Ankara et Berlin. On est là la question allemande revient en force, sans parler de nationalisme, mais comme en fait un peu la patate chaude de l'Europe.
Alors c'est un cas de figure qui, effectivement, c'est une configuration politique qui est relativement nouvelle et récente, et qui rappelle un peu ces remarques et les critiques qui sont parfois faites aujourd'hui à l'Allemagne, rappellent un peu des critiques qui étaient faites au jeu de la France dans l'Union européenne par le passé. Lorsque la France ne prenait pas d'initiative, ne jouait pas de rôle de leader, on lui reprochait de ne pas contribuer assez à l'Union européenne, de ne pas soutenir suffisamment l'approfondissement de l'Union européenne. Et à l'inverse, lorsque la France prenait des initiatives, essayait d'exercer un leadership, on lui reprochait d'être trop dirigeante, de considérer que l'Europe était la caisse de résonance de son influence, de sa puissance, etc. Et aujourd'hui, on fait un petit peu peut-être la même chose avec l'Allemagne. Quelque part, le leadership incontestable exercé par Angela Merkel au cours des dernières années dans l'agenda politique européen vient peut-être aussi compenser un endormissement relatif des institutions communautaires et un endormissement relatif des volontés politiques des autres États membres de l'Union européenne. Quelque part, si l'Allemagne aujourd'hui semble exercer un rôle de leader parfois disproportionné, c'est aussi parce qu'elle vient combler un vide politique dans l'éventail des institutions et des États membres de l'Union européenne.
Bon, on retrouvera en tout cas vos commentaires dans la revue prochaine, je ne travaille pas un secret, la rue Relations internationales et stratégiques, un article de vous sur toute cette problématique, on en a pour des années à la travailler. Merci beaucoup, franceculture.fr. Je rappelle, Bastien Nivet, que vous êtes enseignant à l'école de management Léonard de Vinci, chercheur associé à l'IRIS, et d'autre part, vous avez publié avec Sylvie Matelier à la documentation française un ouvrage l'année dernière, intitulé « L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?»